Vous écoutez CILS-FM, l'unique radio communautaire francophone et francophile de Colombie-Britannique.
Bonjour à tous les auditeurs francophones et francophiles de la grande région de Victoria. Ici Alexis Gagnon, j'ai le plaisir de vous annoncer le retour dans une formule revue et améliorée de l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info à l'antenne de CILS. Soyez avec nous dès le 10 avril. Le Débrief est maintenant diffusé du lundi au vendredi de 16 à 17 heures. Au plaisir de se retrouver cette semaine. Avril et mercredi 26 avril. Bonjour Victoria, c'est parti pour une nouvelle édition de l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info à l'antenne de CILS FM 107,9. Mon nom est Alexis Gagnon, je vous accompagne jusqu'à 17h, où que vous soyez, au travail, à la maison ou en voiture. Bienvenue dans l'émission qui commence immédiatement avec les revues de presse internationales et nationales. Vous écoutez Le Débrief, mon nom est Alexis Gagnon, voici votre revue de presse internationale pour les 25 et 26 avril. Tout de suite, on revient sur la présidentielle française, un article remarqué pour vous dans le journal Le Figaro, c'est signé par le journaliste Guillaume Point. Le Pen et Macron s'opposent frontalement sur la question de l'euro. La présidente du Front National et le candidat d'En Marche, Emmanuel Macron, ont une vision totalement différente de la monnaie unique européenne. Marine Le Pen souhaite sortir de l'euro après un référendum, tandis qu'Emmanuel Macron souhaite instaurer un parlement de la zone euro. Dans sa proposition de campagne numéro 35, la présidente du Front National, Marine Le Pen, propose le rétablissement d'une monnaie nationale adaptée à notre économie, dit-elle. Elle estime que cette mesure permettra à la France de retrouver sa souveraineté monétaire. L'euro va mourir, il faut envisager un retour à nos monnaies nationales, a expliqué Marine Le Pen le 19 avril dernier sur une chaîne de radio privée française. Concrètement, pour sortir de l'euro, Marine Le Pen souhaite engager des négociations avec l'Union européenne avant de proposer le texte issu de cette négociation au peuple français souverain, selon ses propres termes, par référendum. Le candidat d'En Marche, Emmanuel Macron, quant à lui, souhaite au contraire aller vers plus d'Europe et préconise des transferts de souveraineté. Pour pouvoir investir beaucoup plus qu'aujourd'hui, nous voulons un budget de la zone euro voté par un parlement de la zone euro et exécuté par un ministre de l'économie et des finances de la zone euro, a-t-il martelé dans son programme. L'ancien ministre du Parti socialiste ne remet donc pas en cause la zone euro. Il estime également qu'il faut avancer sur la convergence fiscale et sociale sur le vieux continent. Donc vous aurez ce comparatif sur la question de l'euro dans le journal Le Figaro. Le Pen et Macron s'opposent frontalement sur la question de l'euro. On va se rendre à présent dans le fil de l'agence Reuters. Le président Donald Trump s'entretient de la Corée du Nord avec Tokyo et Pékin. Après le Japon, la Corée du Sud pourrait à son tour effectuer des exercices militaires conjoints avec un groupe aéronaval américain en approche des eaux entourant la péninsule coréenne, alors que le président Donald Trump a appelé ses homologues japonais et chinois pour évoquer les tensions avec la Corée du Nord. Le premier ministre japonais Shinzo Abe a dit lundi qu'il avait convenu avec le président américain Trump de rester en contact étroit au sujet de la Corée du Nord, tout en exhortant la capitale nord-coréenne à faire preuve de retenue, certains craignant un nouvel essai nucléaire nord-coréen. Selon les médias d'État, le président chinois Xi Jinping a dit à Donald Trump qu'il avait bon espoir de voir toutes les parties concernées faire preuve de retenue, ajoutant que la Chine s'opposerait à toute initiative contraire aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Du côté du Moyen-Orient, à présent, on nous parle du Yémen dans le portail de France Culture. Yémen, la guerre oubliée. Imaginez les 19 millions d'habitants de l'État de New York ou l'ensemble de la population des Pays-Bas sous des bombardements incessants, privés d'une aide indispensable à leur survie, dans l'impossibilité de fuir et délaissés par la communauté internationale. Ce scénario n'est malheureusement pas celui d'une fiction, mais le quotidien des 19 millions de personnes qui ont besoin urgemment d'aide humanitaire au Yémen. Aujourd'hui, s'ouvre à Genève une conférence des donateurs présidée par le secrétaire général des Nations Unies, au cours de laquelle 5 organisations non gouvernementales entendent exprimer leur révolte face à ces vies en sursis, ces millions de femmes, d'hommes et d'enfants, otages de l'inertie diplomatique et de la barbarie des belligérants qui, chaque jour, bafouent le droit international humanitaire. L'occasion ou jamais de faire mentir l'attribut qui colle généralement à ce conflit qui dure maintenant depuis 2 ans, la guerre oubliée. Cette guerre qui fait rage entre, d'un côté, les forces pro-gouvernementales soutenues au sud par une coalition arabe menée par l'Arabie saoudite, et de l'autre, les rebelles chiites houthis pro-iraniens au nord. Donc cette guerre, écrit France Culture, a déjà fait 10 000 morts et plus de 40 000 blessés. L'an dernier, 1 500 enfants ont été tués et 2 450 blessés. Quelques 1 600 autres ont été recrutés pour aller se battre. Par ailleurs, 2 millions d'enfants souffrent aujourd'hui de malnutrition, une augmentation de 53% par rapport à 2015. Les estimations font état de 462 000 enfants de moins de 5 ans en danger de mort immédiate due à la malnutrition. Dans l'ensemble, au Yémen, un enfant de moins de 10 ans meurt toutes les 10 minutes. Donc voilà un papier bouleversant sur cette guerre oubliée qui sévit actuellement au Yémen. C'est dans le portail de France Culture. On poursuit cette revue de presse internationale avec un article remarqué sur le portail de Mediapart. Activité du cimentier Lafarge en Syrie. Le patron démissionne. Alors le cimentier Lafarge, c'est un groupe international basé en Suisse dont la propriété est partiellement détenue par des intérêts canadiens. Eric Olson, nous rapporte Mediapart, abandonnera ses fonctions le 15 juillet. Son départ a été annoncé lundi, en même temps que les rudes conclusions de l'enquête interne sur le financement de groupes armés par une ancienne cimenterie du groupe en Syrie. Le journal Le Monde avait révélé cette affaire en juin 2016. Eric Olson a perdu son combat. Après des semaines de résistance, le patron de Lafarge Olsim s'est résolu à quitter le numéro 1 mondial du ciment sous la pression de son conseil d'administration. Il abandonnera ses fonctions le 15 juillet et sera provisoirement remplacé par l'actuel président du conseil, Beat S, le temps qu'un successeur lui soit trouvé. Le groupe suisse l'a annoncé lundi 24 avril, en même temps qu'il publiait les conclusions très rudes de l'enquête interne menée sur le dossier syrien. Révélée par Le Monde, cette affaire dans laquelle le groupe Lafarge a financé l'organisation terroriste État islamique en 2013 et 2014 a provoqué récemment de violents règlements de compte chez les dirigeants du cimentier. Donc voilà, Lafarge qui se départit de son PDG suite au scandale du financement de l'État islamique en Syrie. Une affaire dans laquelle Lafarge avait financé l'État islamique pour pouvoir maintenir les activités d'une installation en Syrie. On va poursuivre cette revue de presse internationale avec un article aperçu dans le fil de l'AFP. Un vaccin antipaludique prometteur sera testé en Afrique. Le vaccin antipaludique le plus avancé, mais à l'efficacité limitée, va être testé pour la première fois à grande échelle au Kenya, au Ghana et au Malawi, a annoncé lundi l'Organisation mondiale de la santé, qui ambitionne d'y vacciner au moins 360 000 enfants au total entre 2018 et 2020. L'Afrique est de très loin le continent le plus touché par le paludisme, comptant pour 92% des 429 000 personnes tuées dans le monde en 2015 par cette maladie transmise par des moustiques et également appelée malaria. Les enfants de moins de 5 ans représentent plus des 2/3 de ces décès. Mis au point par le géant pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline, en partenariat avec l'ONG PATH, Malaria Vaccine Vaccine Initiative, le vaccin Mosquirix a été créé justement pour les enfants en bas âge. Donc, vous trouverez cette nouvelle dans le fil de l'agence France Presse. Un vaccin antipaludique prometteur sera testé en Afrique. Climat, il n'y a jamais eu autant de gaz carbonique dans l'atmosphère. Le taux de CO2 dans notre atmosphère a atteint un niveau jamais vu depuis des millions d'années. Un record qui prouve que le climat se dérègle de plus en plus vite. À l'époque romaine, nous rapporte cet article de RTL.fr, le taux de gaz carbonique dans l'air était de 280 parties par million. Il est resté le même jusqu'au début de l'ère industrielle. Et puis l'humain s'est mis à faire brûler du pétrole et du charbon. En 1970, le taux était passé à plus de 300 parties par million. Et lundi 24 avril, cette semaine, on a annoncé que ce taux était passé à 410 parties par million. Cette progression exponentielle correspond à la courbe de ce que les pays émettent pour se chauffer, pour faire rouler les voitures et fonctionner les usines. Ce gaz dans l'air retient sur Terre la chaleur du soleil, c'est lui qui dérègle le climat. À ceux qui ne croient toujours pas que l'humain est responsable du réchauffement, les chercheurs américains, auteurs de ces calculs, disent qu'ils sont complètement irresponsables. Déjà, avec de telles concentrations, la planète s'est réchauffée d'un degré. Si nous continuons à émettre autant de CO2, il faudrait faire avec 3 ou 4 degrés en plus avant la fin du 21e siècle. Il y a quand même des raisons d'espérer, peut-on lire dans cet article de RTL.fr. L'accord de Paris devrait finir par porter ses fruits, mais ces chiffres rappellent que le travail est énorme. Les chercheurs ont réussi à montrer que le taux de CO2 n'avait jamais été aussi élevé depuis 1 million d'années. Autre nouvelle environnementale aperçue dans le fil de l'agence France Presse, l'eau dans le sous-sol est multimillénaire et vulnérable. Les nappes souterraines dans le monde abritent une eau multimillénaire, souligne mardi une étude qui met en garde contre les risques de pollution de ces précieuses réserves. Sous terre, entre 250 mètres et 1 km de profondeur, plus de la moitié des puits sont essentiellement nourris d'eau issue de précipitations intervenues il y a plus de 12 000 ans, avant le début de l'ère Holocène, selon ses travaux présentés il y a quelques jours à Vienne devant l'Union européenne des sciences de la Terre. Vous trouverez cet article dans le fil de l'agence France Presse. L'eau dans le sous-sol est multimillénaire et vulnérable. Voilà qui complète vos infos de la revue de presse internationale. Restez avec nous à l'antenne de votre radio communautaire francophone locale. L'émission Le Débrief se poursuit dans quelques secondes avec la revue de presse nationale. Merci d'être à l'écoute de l'émission Le Débrief des mardis 25 et mercredi 26 avril. On va débuter avec une nouvelle qui nous arrive d'Ontario. C'est rapporté par le journal Les Affaires, un projet pilote de revenu universel en Ontario. La province de l'Ontario lance un projet pilote de revenu universel afin d'évaluer les conséquences pour les allocataires et les finances publiques, a annoncé la première ministre provinciale Kathleen Wynne. Le projet pilote va assurer un revenu de base sur 3 ans à 4 000 personnes sous le seuil de la pauvreté. Nous voulons évaluer si un revenu de base a des effets positifs sur le quotidien des gens, a expliqué la première ministre, notamment pour la santé et l'éducation. Ce revenu universel pourra aller jusqu'à 16 989 $ canadiens par an pour une personne seule et jusqu'à 24 027 $ pour un couple. Le mécanisme est adaptable en fonction des revenus des salariés à temps partiel. Leur revenu universel sera réduit de 50 cents pour chaque dollar gagné. Concrètement, une personne seule avec un salaire annuel de 10 000 $ canadiens percevra en complément un revenu de base de 11 989 $. Les 4 000 participants, âgés de 18 à 65 ans, ont été choisis au hasard dans trois villes, Hamilton, Lindsay et une autre ville de la banlieue de Toronto. La province de l'Ontario a estimé le coût du projet pilote à 50 millions de $ sur une base annuelle. On poursuit cette revue de presse canadienne, un article que nous avons aperçu dans le portail de Radio-Canada. Les États-Unis veulent imposer une taxe de 20% en moyenne sur le bois d'œuvre. C'est une nouvelle, en fait, qui paraît un peu partout dans les médias canadiens cette semaine. L'industrie forestière canadienne essuie un premier coup dur dans la lutte qui l'oppose aux États-Unis concernant les exportations de bois d'œuvre. Un nouveau chapitre s'ouvre cette semaine dans le différend commercial entre le Canada et les États-Unis, alors que le département américain du commerce confirme l'imposition de droits compensateurs de 20% en moyenne sur les exportations canadiennes. Pour certains joueurs majeurs de l'industrie, le taux qui leur sera imposé variera en fonction de l'évaluation effectuée par les responsables américains. Ainsi, produit forestier résolu se verra imposer un taux de 12,82%. Pour West Fraser, Canfor et Tolko, établis en Colombie-Britannique, les taux seront respectivement de 24,12%, 20,2% et 19,5%. Le département du commerce américain choisit ainsi de ne pas imposer cette mesure aux quatre joueurs majeurs au Canada, estimant qu'ils n'ont pas augmenté leurs exportations de façon significative récemment. Concrètement, cela veut dire, indique Radio-Canada, que la taxe rétroactive risque de toucher les plus petits joueurs de l'industrie du bois. Les entreprises touchées par la mesure rétroactive devront ainsi débourser des sommes correspondant à leurs exportations depuis la fin janvier. Autrement, elles ne pourront plus traverser la frontière. Donc cet article sous le titre « Les États-Unis veulent imposer une taxe de 20% en moyenne sur le bois d'œuvre » paraît sur le portail de Radio-Canada. Toujours sur le portail de Radio-Canada, Santé Canada propose d'assouplir les règles pour l'héroïne prescrite. Santé Canada propose d'assouplir les règles sur l'importation de l'héroïne qui sert à traiter les dépendances aux opioïdes. La suggestion est considérée comme essentielle pour réduire les décès causés par le fentanyl à l'échelle du pays. C'est un article qui paraît également dans le fil de la presse canadienne. Selon Caitlin Shane de l'organisme Pivot Legal Society, 931 personnes sont mortes d'une surdose l'an dernier en Colombie-Britannique. Ce chiffre démontre l'urgence de disposer d'un traitement efficace pour ceux souffrant d'une dépendance aux opioïdes. À la clinique Crosstown de Vancouver, une centaine de personnes traitent actuellement leur dépendance à l'aide de l'héroïne prescrite. Ce traitement sera élargi pour permettre l'accès à de l'héroïne importée de Suisse. Une nouvelle réglementation permettrait aux responsables autorisés de présenter une demande à Santé Canada pour importer de grandes quantités d'héroïne à des fins médicales. Trump cible les produits laitiers. C'est un article qui paraît dans le fil de la presse canadienne. Tout juste après avoir imposé des droits compensatoires sur le bois d'œuvre canadien, le président américain Donald Trump menace maintenant de s'en prendre à l'industrie des produits laitiers, son voisin du Nord étant récemment et soudainement devenu sa cible de choix en matière de commerce. Le président Trump a écrit sur Twitter mardi que le Canada a rendu très difficile de faire des affaires pour nos producteurs laitiers du Wisconsin et d'autres États frontaliers. Nous n'accepterons pas cela, a-t-il dit. Regardez bien. Ces propos ont été écrits au lendemain de l'annonce par son administration de l'imposition de droits compensatoires pouvant aller jusqu'à 24% sur le bois d'œuvre canadien. Ce taux pourrait augmenter plus tard cette année. Ces critiques soudaines envers le Canada représentent un changement de cap comparativement aux premiers jours de la présidence de Donald Trump. Soudainement, le président américain se plaint moins de la Chine et du Mexique et davantage du Canada. Hélène Buzetti, correspondante du Devoir à Ottawa, nous donne les dernières nouvelles de la Cour suprême. La Cour suprême a l'occasion de préciser comment interpréter l'arrêt Jordan. Vous le savez, l'arrêt Jordan qui reconnaît le droit des citoyens canadiens à recevoir la justice dans des délais raisonnables. Alors, Hélène Buzetti écrit dans le Devoir, la Cour suprême entend aujourd'hui l'affaire Cody du nom d'un homme qui a vu son procès avorté en raison de délai déraisonnable. La Cour d'appel a ensuite infirmé la décision du tribunal de première instance, si bien que la cause se retrouve maintenant devant le plus haut tribunal du pays. Le débat risque d'être aride et riche en arguties légales, écrit Hélène Buzetti. La cause de James Cody s'amène à la Cour suprême ce mardi, mais l'accusation de trafic de stupéfiants pesant contre le Terre-Neuvien sera bien accessoire. Les avocats décortiqueront plutôt les 5 années passées à attendre son procès pour déterminer si le délai était raisonnable ou non. La décision que rendront les juges risque d'affecter des centaines de causes criminelles et d'éclairer un peu plus la classe politique qui n'en finit plus de gérer les conséquences de cet arrêt Jordan. Donc vous trouverez l'analyse et les derniers développements de tout ce qui entoure l'arrêt Jordan dans ce papier d'Hélène Buzetti dans les pages du journal Le Devoir. Justin Trudeau parle de marijuana avec le public. La presse canadienne rapporte le verbatim, si vous voulez, en substance d'un échange du premier ministre Justin Trudeau avec le public. C'est un forum qui était organisé par la publication Vice Canada, au cours duquel le premier ministre s'est entretenu avec des membres du public à propos de la légalisation de la marijuana. Vous trouverez ça dans le fil de la presse canadienne, mais aussi sur le portail de Vice Canada. Justin Trudeau parle de marijuana avec le public. Ici se termine la revue de presse nationale pour le Canada. Le débrief vous revient dans quelques instants avec votre nouvelle francophone du jour. À tout de suite. Voilà, les revues de presse internationales et nationales sont derrière nous. Voici la rubrique francophonie pour les 25 et 26 avril. Je vous signale une nouvelle parue sur le portail de TFO. TFO, c'est la chaîne de service public francophone de l'Ontario, donc sur tfo.org. L'article est signé par Benjamin Vachet. Commissaire aux langues officielles, le tour des maritimes, point d'interrogation. Le gouvernement libéral a jusqu'au 17 juin pour annoncer la personne qui succédera à Graham Fraser au poste de commissaire aux langues officielles du Canada, écrit Benjamin Vachet dans cet article. Ces derniers mois, écrit-il, plusieurs voix dans les provinces de l'Atlantique s'élèvent pour que la personne choisie vienne des maritimes, alors que le processus de sélection suscite des interrogations. Avant même le départ de Graham Fraser en décembre dernier, la Société nationale de l'Acadie, par la voix de son ancien président devenu sénateur, René Cormier, avait commencé à militer pour la nomination d'un francophone des maritimes au commissariat aux langues officielles du Canada. Son remplaçant par intérim à la présidence de l'organisme, Xavier Laure Giroux, poursuit la même campagne. Il n'y a jamais eu de commissaire issu des provinces de l'Atlantique depuis la fondation du commissariat, a indiqué Xavier Laure Giroux. Ils ont toujours été choisis soit au Québec, soit en Ontario. On ne remet pas en question le travail qu'ils ont fait, mais on pense que ça pourrait être intéressant d'avoir une lunette acadienne, car la réalité est différente ici par rapport aux autres régions très homogènes. Sur les 6 commissaires qui se sont succédés depuis la création du poste en 1969, 4 étaient issus de l'Ontario et 2 du Québec. Nous pensons que c'est le temps, a appuyé le président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, Kevin Arsenault. Le Nouveau-Brunswick est la seule province bilingue au Canada et nous pensons que quelqu'un qui viendrait du Nouveau-Brunswick, par exemple, aurait une perspective différente qui pourrait profiter à toute la francophonie canadienne. Le politologue de l'Université d'Ottawa, Martin Normand, juge cette demande légitime. La réalité est différente dans ces provinces, notamment en matière d'accès aux services en français ou encore pour les employés de la fonction publique fédérale dans les bureaux régionaux qui veulent travailler dans la langue de leur choix, par exemple. Peut-être que depuis Ottawa, cette réalité échappe un petit peu au radar. Cela pourrait apporter une nouvelle perspective et un nouveau souffle. Si plusieurs dans les maritimes poussent pour voir l'un de leurs sélectionnés choisi, l'Ouest reste de son côté totalement silencieux, ce qui désole le professeur en sciences politiques à l'Université Simon Fraser à Vancouver, Rémi Léger. Celui-ci déclare « Les francophones de l'Ouest sont pourtant des groupes historiques avec des histoires particulières dans l'ensemble canadien. De plus, les francophonies contemporaines dans l'Ouest, marquées par la diversité et l'exogamie, sont l'avenir pas très lointain pour le reste de la francophonie canadienne. » Benjamin Vachet, dans cet article, poursuit avec un paragraphe intitulé « Processus transparent ». La nomination du prochain commissaire aux langues officielles du Canada par le gouvernement, écrit-il, doit se faire selon un nouveau processus plus ouvert, transparent et inclusif, selon les termes répétés en boucle depuis l'avènement du Parti libéral du Canada au pouvoir en octobre 2015. Si une liste de finalistes aurait déjà été dressée, selon ce qu'a appris en coulisses TFO, la décision finale reviendra au premier ministre Justin Trudeau. La nomination de Graham Fraser n'était pas partisane et elle a été assez bien acceptée par tous les partis politiques, indique Martin Normand. On saura si le gouvernement Trudeau respecte son engagement de transparence une fois la nomination annoncée. Mais comme c'est le premier ministre qui aura le dernier mot, il y aura forcément une part de subjectivité. Parmi les candidats évoqués, plusieurs sont considérés comme proches du Parti libéral du Canada ou du Parti libéral de leur province. Donc voilà pour ce papier sur la nomination prochaine d'un nouveau commissaire aux langues officielles. C'est sous la plume de Benjamin Vachet dans le portail TFO. C'était votre nouvelle à thématique francophone pour les 25 et 26 avril dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien. Merci de demeurer à l'écoute de votre radio communautaire francophone locale. Nous écoutions à l'instant Get Back, une pièce du Mike Allen Quartet, une formation de Vancouver. C'est Alexis Gagnon en votre compagnie jusqu'à 17h. Vous écoutez le débrief à l'antenne de CILS FM 107,9. L'information se poursuit, c'est pas fini. On va passer aux nouvelles de Colombie-Britannique. On entame tout de suite la revue de presse provinciale des 25 et 26 avril. Saisie importante de fentanyl dans le Grand Vancouver. La police de New Westminster en Colombie-Britannique a saisi du fentanyl pur et du fentanyl mélangé à de l'héroïne d'une valeur marchande de 300 000 $ dans le cadre d'une enquête majeure. Des mandats de perquisition exécutés à New Westminster et à Surrey ont aussi mené à la saisie d'armes à feu, de répliques d'armes à feu, de véhicules et d'une quantité importante d'argent. Le sergent Jeff Scott a indiqué lundi lors d'une conférence de presse que des personnes connues de la police ont été arrêtées et font face à des accusations. L'identité des accusés ne peut pas être révélée car l'enquête policière se poursuit. Il s'agit aujourd'hui d'une partie seulement des efforts à volets multiples de la police de New Westminster pour lutter contre la crise des opioïdes, a soutenu le sergent Jeff Scott. La police de New Westminster enquête actuellement avec la police de Delta, la gendarmerie royale du Canada, de Surrey, et l'Agence des services frontaliers du Canada. Bois d'œuvre, un article qui paraît dans le fil de la presse canadienne. La presse canadienne ici nous propose un portrait du litige entre le Canada et les États-Unis autour du bois d'œuvre. D'après des observateurs, peut-on lire entre autres dans cet article, l'industrie canadienne du bois d'œuvre est dans une meilleure position qu'elle ne l'était il y a 10 ans pour traverser un conflit commercial avec les États-Unis, mais les plus petits producteurs du Québec et de l'Ontario seraient particulièrement vulnérables. Les producteurs de la Colombie-Britannique comme West Fraser Timber, Canfor et Interfor ont usé de précautions en achetant des scieries en territoire américain, en plus d'augmenter leurs exportations de bois d'œuvre vers la Chine. Toutefois, poursuit cet article, l'éloignement géographique des scieries de l'Ontario et du Québec avec la Chine les empêche de livrer leurs produits dans la plus grande économie de l'Asie. D'après Statistique Canada, la valeur des exportations canadiennes de bois d'œuvre vers ces pays est passée de 55 millions à 1 milliard de dollars l'an dernier. De plus, dans le centre du Canada, les scieries ont tendance à être plus petites, leurs flux de trésorerie sont moins importants pour régler les droits et conséquemment, le risque de fermeture est plus élevé, ont noté des experts. Fait intéressant dans cet article, on indique que l'industrie du bois de Colombie-Britannique est mieux préparée à affronter les différents commerciaux qui sévissent actuellement entre les États-Unis et le Canada. On poursuit cette revue de presse provinciale. L'exploitation minière de placers dans le bassin hydrographique du fleuve Fraser en Colombie-Britannique pollue les eaux et pourrait menacer les saumons selon une nouvelle étude. C'est une information qu'on retrouve sur le portail de Radio-Canada Colombie-Britannique. Le rapport publié mardi par l'organisme d'exploitation minière équitable Fair Mining Collaborative, FMC, révèle que l'exploitation de placers a augmenté dans les dernières années, que l'activité est insuffisamment réglementée et que ses impacts ne sont pas surveillés. L'organisme soutient qu'en 2016, il y avait 542 mines de placers ayant un permis d'opérer en Colombie-Britannique. Le rapport souligne qu'aucune évaluation environnementale des sites n'a été effectuée. Alors les placers, c'est une façon de traiter le minerai à même les cours d'eau. C'est une façon traditionnelle, si vous voulez, et un peu sauvage, où on effectue le tamisage pour extraire le minerai souhaité en bordure d'un cours d'eau ou même installé dans le courant d'un cours d'eau. Donc, ce qui a pour effet de provoquer de la pollution. Alors, c'est ce que constate une étude dévoilée ces jours-ci. Vous trouverez ça dans le portail de Radio-Canada. Une campagne de sensibilisation pour dire à Kinder Morgan de faire passer la sécurité avant les profits. La coalition Sécurité avant les profits, Safety Before Profits, de la Colombie-Britannique et ses membres ont lancé une campagne en ligne pour dire à Kinder Morgan de tenir la promesse qu'elle a faite aux Britanno-Colombiens, à savoir de faire passer la sécurité avant les profits. La coalition Sécurité avant les profits de la Colombie-Britannique a été formée en avril ce mois-ci par suite des réactions d'un nombre croissant de Britanno-Colombiens inquiets au sujet du niveau d'engagement de Kinder Morgan sur le plan de la sécurité. Le porte-parole de la coalition Sécurité avant les profits, Patrick Campbell, a affirmé en refusant de s'associer aux travailleurs syndiqués les plus expérimentés et hautement qualifiés, Kinder Morgan fait passer les profits avant la sécurité. Si les travailleurs les plus qualifiés de la Colombie-Britannique sont laissés de côté, comment Kinder Morgan peut-elle respecter les 5 conditions qui ont été imposées par le gouvernement de la Colombie-Britannique? Pour tout dire, Kinder Morgan ne sera pas en mesure de respecter ces conditions. Donc voilà, c'est une annonce faite cette semaine par la coalition Sécurité avant les profits, Safety Before Profit en Colombie-Britannique, à propos du projet Kinder Morgan, l'expansion du pipeline Trans Mountain. On nous annonce sur le portail TVA Sport aujourd'hui que les Canucks de Vancouver ont embauché Travis Green à titre d'entraîneur-chef. C'est ce qu'a rapporté en tout premier lieu, en exclusivité, le réseau Sportsnet. L'ancien hockeyeur professionnel Travis Green a passé les 4 dernières campagnes à la barre du club école des Canucks, qui est situé à Utica. Dans la Ligue américaine, l'entraîneur avait présenté un dossier de 155 victoires, 110 défaites et 29 matchs en prolongation, donc un total de 304 matchs, menant sa troupe vers la finale de la Coupe Calder en 2015. Cette année, son équipe, les Comets, ont conservé une fiche de 35 victoires, 32 défaites, 9 matchs en prolongation pour un total de 79 points et ils ont malheureusement raté les séries éliminatoires de fin d'année. Vancouver avait congédié, rappelons-le, récemment l'entraîneur Willie Desjardins le 10 avril, peu après la saison régulière de la Ligue nationale de hockey. Autres articles à vous signaler dans l'actualité provinciale. Du côté du Vancouver Sun, BC Election, NDP jumps to double-digit lead in Lower Mainland. Donc le NPD, mené par le chef John Horgan, aurait réalisé un gain important dans les sondages. Il mènerait par une avance de plus de 10 points actuellement. C'est rapporté par le journaliste Laurie Colbert dans le Vancouver Sun. Dans le fil de l'agence de presse canadienne, côté anglophone, on nous signale que le groupe Democracy Watch, Démocratie sous surveillance dans son intitulé français, fera appel d'une décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique qui avait rejeté ses allégations concernant Christy Clark. Le groupe Democracy Watch prétendait que Christy Clark était en conflit d'intérêts en rapport avec les événements de financement du Parti libéral. Donc, le groupe Democracy Watch fera appel de la décision de la Cour suprême de Colombie-Britannique et portera donc cette cause vers la Cour suprême. C'est dans le fil de l'agence de presse canadienne. Voilà, ainsi se termine le petit tour d'horizon des nouvelles provinciales. C'est Alexis Gagnon au micro. Vous écoutez Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9 dans la grande région de Victoria. On fait une courte pause. Au retour, on s'intéresse à la météo des prochains jours et j'ai le plaisir de recevoir en studio Guillaume Kiefer, un membre de la communauté française à Victoria. Guillaume, qui est un ancien directeur de la radio CILS, viendra nous fournir son analyse, ses réflexions suite au premier tour de la présidentielle française qui s'est tenue dimanche. À tout de suite, restez à l'écoute. Guillaume Kiefer est avec nous pour tracer un bilan du premier tour de la présidentielle française. Bonjour Guillaume.
Bonjour Alexis.
Guillaume est membre de la diaspora française ici à Victoria. C'est un ancien directeur général de CILS FM. Il est bien connu dans le milieu communautaire et associatif de Victoria. Merci Guillaume de te prêter au jeu. On va examiner un petit peu à chaud, moins de 24 heures plus tard, le bilan du premier tour de la présidentielle française. Donc Emmanuel Macron, 23,86%, Marine Le Pen 21,43%. Ces deux qualifiés vont s'affronter au deuxième tour le 7 mai. Surpris?
Surpris, oui et non. Là, sur les dernières semaines, les écarts se rapprochaient beaucoup. Là, il y avait de moins en moins d'écarts. Mais finalement, c'est ce qu'annonçaient les sondages depuis des mois. Donc, les sondeurs étaient très contents parce qu'ils sont beaucoup blâmés en France pour s'être trompés. Mais là, bon, c'est le résultat. On s'y attendait un petit peu. Bien que ça reste surprenant qu'Emmanuel Macron, un an après avoir créé son parti, soit au deuxième tour de l'élection présidentielle, c'est très étonnant pour beaucoup de monde.
Oui. Il a fondé En Marche il y a à peine un an.
Oui.
Et peut-on dire qu'il a bénéficié de l'appui du PS? Est-ce qu'il y avait une machine derrière lui? Comment peut-on faire ça? C'était pas à partir de rien quand même.
Non, c'était pas à partir de rien. Alors c'est quand même un jeune homme qui est très jeune d'ailleurs, hein, qui a moins de 40 ans, qui a été à l'ENA. Qui est soutenu quand même par des gens comme Pierre Berger ou Alain Minc, un économiste qui a souvent été dans l'ombre d'autres présidents. Donc derrière lui, il y a des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans les médias ou en tout cas qui restent discrets et qui pourtant ont été très très influents dans sa montée. Et puis forcément, au bout d'un moment, il y a eu des gens du PS qui ont commencé à le rejoindre, dont par exemple Gérard Collomb, le maire de Lyon, qui très tôt, dès le début de En Marche, l'a rejoint. Et ça a créé un mouvement où il y a des gens du. Il y a Robert Hue, Parti communiste, ancien premier secrétaire du Parti communiste qui l'a rejoint. Et aussi Alain Madelin. Daniel Cohn-Bendit.
Des protagonistes étonnants qui étaient dans d'autres marges du spectre auparavant et là qui se sont manifestés au centre, derrière Macron.
Voilà. Alors, au centre, est-ce que c'est le centre? Est-ce que c'est la droite?
C'est plutôt la droite. Enfin.
Voilà. Bon, ça dépend des sensibilités.
Oui.
Mais en effet, ce spectre est assez étonnant, quoi, parce que Alain Madelin, par exemple, était quelqu'un qui était à la limite de l'extrême droite, Robert Hue à l'extrême gauche. Donc c'est difficile à comprendre. Lui explique qu'il ne veut pas représenter, qu'il ne fait pas partie des partis, qu'il fait pas partie du système. Mais après, quand on voit les gens qui le suivent, il fait partie du système.
Oui, alors il ne déplaît pas à l'establishment français, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a fait la une de tous les grands médias, magazines, titres de presse qui sont contrôlés, on le sait, en France par quelques richissimes milliardaires. Donc on l'a vu à répétition sur les unes au cours des derniers mois, au cours des deux dernières années. Je me rappelle d'un titre de l'Obs, La fusée Macron, toujours des titres, des manchettes qui suggèrent un crescendo, une mise à feu. Donc voilà, Macron qui a actualisé là, cette ambition et qui est au second tour. Côté FN, Front National, Marine Le Pen est au deuxième tour. Jamais le Front National n'a réalisé de tels résultats électoraux lors des élections intermédiaires. Jamais il n'a mobilisé aussi largement dans la société et jamais n'a-t-il obtenu autant d'élus. Alors peut-être un commentaire sur cette présence très forte du FN quand même.
On s'y attendait, les dernières élections régionales avaient vraiment montré une énorme poussée du FN. Faut voir aussi qu'il y a beaucoup de gens en France qui sont dans une situation assez désespérée, qui ne croient plus dans les élus en général.
Ouais.
Et le discours du FN est devenu très très audible pour beaucoup de monde. Et quelque chose qui, moi, me surprend beaucoup, quand j'étais plus jeune, je me souviens en 2002, quand Jean-Marie Le Pen est arrivé au deuxième tour, on était des centaines de milliers à descendre dans les rues.
Oui.
Là, il y a eu 300 personnes hier à Place de la République à Paris. Il y a eu quelques centaines de personnes à Toulouse aussi, mais ça ne mobilise plus comme avant l'anti-FN. Quelque chose de surprenant aussi, c'est que les gens qui votent Front National ne sont plus du tout. C'était un peu honteux avant d'être Front National. On n'osait pas le dire. On avait voté pour le Front National, mais on l'assumait pas en public. Maintenant, c'est extrêmement assumé, c'est revendiqué, même chez les jeunes. Ils font un énorme score chez les jeunes, le Front National. Ça me surprend, ça m'attriste aussi beaucoup.
Ouais. Bien sûr. Alors, le FN, à l'origine, ce sont d'anciens collabos, ce sont des antisémites déclarés, des gens qui vraiment avaient des vues extrêmes. Marine Le Pen a essayé de refaire un peu la façade du FN, mais l'ADN du FN demeure le même.
Alors l'ADN reste vraiment le même. Régulièrement, ils essayent de bannir tous les signes ostentatoires de racisme et d'extrémisme, mais régulièrement on retrouve sur les réseaux sociaux leurs élus faire des commentaires odieux ou des photos vraiment limites. Mais bon, ça reste la même chose. quelque chose qui a profondément changé, c'est son discours sur l'économie et le social. Là, elle était presque sur du Mélenchon dans certains discours.
Oui.
Et puis, ça s'est un peu essoufflé sur la fin de la campagne, ce discours-là. Elle avançait plus trop dans les sondages. Et la dernière semaine, là, elle a tout balancé sur l'immigration. Des propos très violents sur l'immigration, sur l'islam. Et ça a relancé un petit peu la machine, mais elle fait quand même un score moindre que ce qui était attendu. Gens du Front National sont quand même si elle a fait un très gros score, 10 millions de votants, alors que c'était 7 millions pour son père en 2002, donc c'est une énorme remontée. Mais n'empêche qu'elle n'a pas fait les 30% qu'on promettait et qu'elle a peu de chances quand même de gagner au deuxième tour.
Parlons des grands déçus, je dirais pas des laissés pour compte, mais il y a quand même de grandes déceptions dans ce premier tour. On peut parler bien sûr du parti du président sortant, François Hollande, le Parti socialiste, qui fait un score vraiment minuscule avec seulement 6% des voix. Je te lis un petit passage d'un papier publié par Mediapart. Il ne croyait pas au jeu, il croyait au nous, mais le nous n'est pas nombreux. Benoît Hamon a été éliminé au premier tour de la présidentielle dimanche 23 avril avec seulement 6% des voix, une chute spectaculaire de 22 points par rapport au score de François Hollande 5 ans plus tôt.
Ouais, alors là clairement le Parti socialiste est entièrement responsable de ce qui s'est passé. François Hollande est entièrement responsable de ce qui s'est passé, de mon point de vue.
Oui.
Son quinquennat a été très très mal ressenti par les Français. Il y a eu ce que les gens de gauche ont estimé être des trahisons tout au long du quinquennat. Macron, qui était ministre de François Hollande, a démissionné, a trahi François Hollande. Ça a été un ensemble de choses qui ont fait que les citoyens français ne voulaient absolument plus voter pour le Parti socialiste. Benoît Hamon a fait ce qu'il a pu. Ça a été très difficile parce que après la primaire, les autres candidats à la primaire ne l'ont pas soutenu, alors qu'il s'était engagé, signature à l'appui, de soutenir le vainqueur de la primaire. Manuel Valls ne l'a pas fait de manière très ostentatoire. Il a carrément déclaré qu'il voterait Macron dès le premier tour.
Manuel Valls, l'ancien ministre de l'Intérieur et premier ministre de François Hollande.
Tout à fait. Et aucune réaction du Parti Socialiste, alors que beaucoup de gens réclamaient du coup l'exclusion de Manuel Valls du Parti Socialiste. Et je cite Manuel Valls parce qu'il est connu, il y en a des dizaines et des dizaines d'autres. Donc ça c'est quelque chose qui a été assez scandaleux tout de même, cette parole non respectée. Et puis bon, il a pas réussi à mobiliser, il avait un projet très progressiste qui a fait peur, je pense, à pas mal de Français qui l'ont trouvé utopiste plus que progressiste. C'est vraiment dommage. Il y avait des bonnes idées, il y avait des choses à porter. Il a juste hérité d'un mauvais quinquennat et il a été sanctionné à la place de François Hollande, en fait.
Bon. Je te lis un petit passage écrit par Hervé Kampf. C'est un ancien du journal Le Monde qui a cofondé Reporter, qui est un portail écologiste. Il a une très belle phrase sur le premier tour. Tu me diras si elle t'interpelle, cette phrase. Le premier tour de l'élection présidentielle est attristant, plaçant face à face le candidat de la politique néolibérale à celle de la xénophobie institutionnalisée. Donc, politique néolibérale, austéritaire face à la xénophobie institutionnalisée, sommes-nous face à la peste et au choléra? Est-ce que l'électeur va devoir s'abstenir peut-être? Est-ce que c'est vraiment un choix impossible?
Alors, c'est pas forcément, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui soutiennent ces deux candidats. Mais pour le peuple de gauche, notamment, ça va être très, très compliqué. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un hashtag sur Twitter qui est « Sans moi le 7 mai ». Donc, clairement, il y a un mouvement qui se met en place de gens qui proclament qu'ils n'iront pas voter, soit qu'ils voteront blanc au prochain tour. C'est difficile. J'ai entendu ce matin un commentaire, un monsieur qui expliquait que lui, il estimait que tout ce que représentait Macron, le système qu'il représentait, même s'il se dit anti-système, beaucoup pensent qu'il en fait pleinement partie, que ce système qu'il représentait était responsable de la situation dans laquelle on était, donc il ne voudrait pas voter pour lui, et que le Front National était la cause de ce système, et donc ils ne voteraient pas non plus pour le Front National.
D'accord.
Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils voteront ni pour l'un ni pour l'autre. C'est la première fois que je vois ça. C'était très clair à l'époque de Jacques Chirac et de Jean-Marie Le Pen en 2002. Il y a beaucoup de gens qui ont voté pour Jacques Chirac, Et beaucoup de gens reprochaient après que Jacques Chirac n'ait pas pris en compte le fait que des gens de gauche, des gens du centre, aient
Oui.
voté pour lui. Ça n'a pas du tout été
Bah,
pris
c'est
en
une forme de
compte.
sacrifice quelque part, c'est une forme de don de soi, je veux dire, désintéressé, on vote pour l'adversaire,
Voilà.
pour éviter le pire.
Voilà, on vote pour la
Et
démocratie, on vote pour la
après, on
République.
s'attend à une contrepartie, naturellement, et cette contrepartie, dis-tu, n'est jamais venue.
Elle n'est jamais venue, ça a même été très dur, parce que le second quinquennat de Chirac, ça a été Nicolas Sarkozy à l'intérieur, les émeutes très violentes qu'il y a eu en 2005, il me semble. Donc ça c'est même, je veux dire, ça a été très à droite le deuxième quinquennat. Et beaucoup de gens ont regretté d'avoir voté Jacques Chirac, et je pense que ce coup-ci, ils ne voteront ni pour l'un ni pour l'autre.
Aïe, est-ce qu'on peut tout de même s'aventurer à avancer un pronostic pour le 7 mai? Est-ce qu'on est en droit de s'attendre à une victoire de Macron?
La plupart des commentateurs et des statisticiens estiment que Macron va gagner haut la main. Les chiffres que j'ai vus étaient 65%. Pour rappel, encore une fois, Jacques Chirac, c'était 80%, donc on verra dans 2 semaines. Mais a priori, en effet, les voix, beaucoup de voix de Hamon partiront vers Macron. Et il y a aussi l'autre grand perdant, hein, qui est l'UMP,
Oui.
qui s'appelle maintenant Les Républicains. Qui ont fait un score terrible pour eux. Je veux dire, c'est la
Oui.
première fois dans la Ve République que la droite républicaine n'est pas représentée au second tour d'une élection présidentielle. Donc
Oui, merci de le noter.
c'est une énorme claque pour eux. Et là, je pense en effet qu'il y a beaucoup, beaucoup de leurs voix, pas la totalité, hein,
Oui.
mais il y a beaucoup de leurs voix qui vont aller à Macron. Donc voilà, je veux dire, si on fait les calculs, ça paraît difficile pour Marine Le Pen de gagner le deuxième tour.
Alors, c'est une élection qui reste très intéressante. Elle l'était avant le second tour parce qu'il y avait beaucoup de candidats. Chacun, on avait quatre candidats à 20%. Donc, c'était très complexe, c'était fascinant. Ça le reste. On va suivre ça attentivement. J'espère que tu reviendras, Guillaume, pour nous parler un peu avant ou un peu après le second tour.
Avec plaisir.
À
Merci
bientôt.
beaucoup.
Merci. Encore merci à Guillaume Kiefer pour cet entretien sur le premier tour de l'élection présidentielle française. On va revenir bien sûr à cette actualité internationale dans les prochains jours. C'est déjà tout pour le débrief édition des 25 et 26 avril. Merci d'avoir été à l'écoute au cours de cette heure d'information à l'antenne de CILS FM. Je rappelle en terminant que c'est la journée porte ouverte à la Société francophone de Victoria ce jeudi, donc jeudi 5 à 7 au 12-18 Langley à Victoria pour inaugurer les nouveaux locaux de la SFV et les nouveaux équipements de CILSFM. Donc, soyez des nôtres, c'est jeudi 27 avril et on se laisse sur une pièce de Karim Ouellet. Excellente soirée à tous. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.
Au diable, demandez son dû. Mieux vaut tuer le diable que si le diable nous tue. Grain de sable que nous sommes. On t'a dit que le temps guérit tout et qu'on n'a que ce qu'on mérite, que ce qu'on mérite. Et que l'avenir est devant nous, mais qu'on n'a que ce qu'on mérite, que ce qu'on que ce qu'on mérite, y a. Yeah.
toi.
Vous écoutez CILS FM, la voix de votre communauté.
Allongé dans l'eau bleue, le temps était délicieux. Et nous étions si insoucieux, jamais on pensait aux adieux. Le sable chaud contre ma peau va savoir le vrai du faux. Lorsqu'une histoire s'entame, la mer est calme. C'est un peu plus tard que tout s'enflamme.
Bonjour, je suis Andy, votre capitaine sur le traversier vers Vancouver, et j'écoute CILS FM.
La mer qu'on voit danser le long.
Vous écoutez CILS FM 107,9, la voix de votre communauté.
Allô la planète avec Eric Lange.
Et rebonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission. Où allons-nous essayer d'aller aujourd'hui ? Il y a Catherine qui est en train de se réveiller à Montréal, au Québec, on va l'appeler. Elle fait un truc marrant, Catherine, elle voyage un an sur trois. Ça, c'est... On n'avait pas eu encore. Hein. On avait eu six mois, un mois. Mais alors, un an sur trois. On verra ça, elle arrive du Sri Lanka, je crois. Alex part avec toute sa famille.